midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ma mission, vous la connaissez, vous montrer que tous les jours, oui, la France bouge et que c'est vous qui la faites bouger. Aujourd'hui, gros plan évidemment sur les événements historiques, comment transmettre grâce à de nouveaux outils. Les Français, vous allez le constater, ont su se servir du futur pour nous ramener dans le passé. Elle est mondialement connue, son nom est lié au Mont-Saint-Michel, qui est la mère Poulard. Réponse aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, ils veulent, eux, être les nettoyeurs des océans, nettoyer notamment le plastique. La solution s'appelle I Clean My Sea. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend bien sûr aujourd'hui. Venez nous dire comment vous parlez de l'histoire à vos enfants ou à vos petits-enfants, sur quel support vous leur lisez des histoires, comment vous faites pour leur raconter, pour transmettre les événements, Anissa, qui ont fait la France d'hier.
Vos solutions de transmission d'histoire, c'est maintenant que ça se passe. On en parle jusqu'à 14h. 39-21, c'est le standard. On vous écoute. Dépêchez-vous, appelez-nous dès maintenant, 50 centimes la minute. Et puis on vous lit également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir que des solutions, il y en a beaucoup, même pour transmettre cette histoire qui est la nôtre. Pour accueillir nos invités à mes côtés, elle est là, comme chaque jour. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Jean Moreau, président et cofondateur de Phoenix. Bonjour Jean.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
L'histoire, vous serez d'accord avec moi, c'est le présent de nos anciens. Et s'ils ne sont plus là pour nous faire partager et revivre ce passé, il faut évidemment trouver des moyens de substitution. Bonjour Adrien Sadaka.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Timescope. Timescope, alors je vais le dire comme ça, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps. Racontez-moi comment vous avez eu l'idée de nous aider à nous transporter dans le passé. Comment est né le projet?
Alors en fait, le projet est né en 2015. Lorsque, avec mon associé cofondateur, qui était à l'époque simplement un ami très très proche, on a essayé et expérimenté les technologies de réalité virtuelle, et on s'est dit concrètement, cet outil, à travers l'expérience qu'il propose, est un outil qu'il faut mettre à disposition des sites historiques et culturels pour les aider à raconter leur histoire.
Et c'est en pensant, je crois, à Pompéi que vous vous êtes dit qu'il y avait des choses à faire, parce qu'on peut imaginer, on peut donner à voir, alors que pour l'instant, ça n'est pas possible, même quand on est sur place.
Exactement. En fait, on a voyagé beaucoup avec mon associé, et notamment Pompéi est un site très parlant. L'histoire de Pompéi, lorsqu'on y va, c'est pour y être transporté. Et finalement, on a du mal à l'imaginer, on a du mal à la voir et à la vivre, à la saisir lorsqu'on est sur place. La réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet d'entrer en immersion dans un environnement. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être à l'intérieur de ce que vous visualisez. Ça agit de façon très puissante sur l'expérience que vous vivez, puisque vous avez l'impression d'être transporté dans le temps. Et puis également, ça agit sur la mémoire de façon hyper spécifique, hyper forte, beaucoup plus que d'autres supports plus habituel.
Donc l'idée, c'est de nous faire faire un petit voyage spatio-temporel. Pour ça, vous avez fabriqué une sorte de borne. Elle est fixe. Hein. On se munit d'un casque de réalité virtuelle et on est propulsé à l'époque où s'est produit un événement. Exemple à la Bastille, puisque je crois que c'est l'une des toutes premières bornes que vous avez installées. Il y en a une aussi, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, du côté du Havre, parce que la ville a fêté ses 500 ans. Et cette ville-là, elle a une histoire bien particulière puisqu'elle a été détruite totalement pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. En fait, Timescope, ça a été le premier service qu'on a lancé, est une machine à voyager dans le temps, comme vous l'avez très bien dit. Une borne de réalité virtuelle en libre service qui vous permet d'entrer en immersion dans des environnements en extérieur ou en intérieur et de raconter l'histoire de ces lieux. Et donc, au Havre, on a plusieurs bornes qui sont installées, une sur la place de l'Hôtel de Ville et une sur le quai de Southampton. Et on transporte le public dans le passé, avant la destruction du Havre. Donc la ville a été détruite à 80% lors des bombardements alliés. Donc la ville telle qu'elle était dans le passé. Et puis, c'est pas juste une façon de raconter l'histoire, c'est aussi une façon de raconter le présent, de raconter la reconstruction de la ville.
Parce qu'il y a un avant et un après.
Exactement. En fait, on voit la ville sous les bombardements, la ville bombardée, c'est des images qui sont très fortes. Et après, pendant cette expérience-là, on raconte comment est-ce que Auguste Perret a complètement rénové.
Qui est l'architecte qui a totalement rénové la ville, qui est classée aujourd'hui au patrimoine.
Tout à fait, depuis 2005. Et donc, c'est aussi un outil pour raconter l'histoire, raconter le présent.
Qu'est-ce que ça vous a fait de vous transporter, vous, dans cette histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, quand vous avez dû travailler pour la ville du Havre ?
C'est à chaque fois des expériences qui sont assez puissantes, assez fortes. On rencontre les acteurs locaux, les scientifiques locaux, on met en place des comités scientifiques. Et donc, en plus de l'intérêt, de l'apprentissage qu'on y trouve, il y a une dimension positive, tout simplement, qui est assez exceptionnelle.
Ouais, il y a des habitants hein, qui ont été frappés parce qu'ils ont connu cette période-là et qui vous l'ont dit.
Ouais. On a des habitants qui ont vécu cette période-là et puis évidemment énormément de descendants à qui on a raconté cette période-là et qui ont fait l'expérience et qui avaient les larmes aux yeux et qui nous disaient c'est génial de pouvoir montrer et transmettre de cette manière-là. Donc, c'était très gratifiant.
Le coach Jean Moreau.
Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'il arrive à allier une dimension culturelle avec une dimension business, parce qu'il y a aussi un intérêt derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que les villes ont à gagner d'un point de vue économique ?
Bien sûr. Alors, en fait, la façon dont on va transmettre la mémoire, c'est l'enjeu auquel on répond. Mais derrière, ces espaces-là, ils sont connectés à des problématiques qui sont d'attirer plus de visiteurs, qui sont d'améliorer la satisfaction de ces visiteurs. Et en fait, l'outil va être un instrument pour répondre à ces enjeux-là. Donc, quand on va, par exemple, mettre une borne au Havre ou alors au Monument des Fraternisations à Neuville-Saint-Va, on va mesurer la satisfaction du public, on va fournir des données à nos clients sur les retours d'utilisation, qui sont les utilisateurs, les langues qu'ils utilisent, etc. Et on va les aider à atteindre aussi des objectifs qui sont des objectifs business, on peut le dire, à travers la réponse autour du patrimoine.
Et d'ailleurs, vous intéressez y compris l'étranger, parce que je crois que vous avez des déploiements prévus à l'international, notamment d'ailleurs en Angleterre et en Allemagne, lieux qui sont eux aussi chargés d'histoire, des lieux précis qui sont liés aussi à ces guerres dont nous sommes en train de parler.
Alors, malheureusement, je ne peux pas encore rentrer trop dans le détail raisons d'embargo, un petit peu de communication sur ces projets. Mais oui, effectivement, les guerres sont des sujets à raconter
parce
et à transmettre.
Il y a vraiment ce besoin qui s'exprime.
Complètement. C'est un besoin qui concerne tous les sites qui sont chargés d'histoire. Et alors, il y a les guerres contemporaines, mais il y a aussi les périodes beaucoup plus lointaines, ou encore des événements qui ne sont pas des guerres, mais qui ont un intérêt à être racontés. C'est ça qu'on essaye de faire. Ouais.
Vous avez comme ça une quarantaine de bornes qui sont installées. Elles sont en libre service. Et combien d'époques, finalement, vous arrivez à couvrir comme ça ? Combien d'événements ?
Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des outils technologiques qu'on développe et qui permettent d'aller extrêmement loin dans la reconstitution. Donc, on peut couvrir n'importe quelle époque à partir du moment où on a des sources. C'est très important. Tout est évidemment validé scientifiquement. Donc il faut des sources.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une appli, puisqu'on est en train de parler de la Seconde Guerre mondiale, pour visiter le musée Radar.
Oui, tout à fait. C'est à la demande de la ville de Douvres-la-Délivrande, donc en Normandie, ce musée Radar qui présente donc l'histoire du radar et du site dans les bunkers de l'époque. Vous avez la possibilité, avec une application smartphone, de découvrir ce musée sur les télétransmissions et sur la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est géré par le mémorial de Caen et il propose donc des visites guidées. On peut avoir une visite documentée de 45 minutes environ, dans plusieurs langues, en français, en anglais, en italien, avec aussi un parcours pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. On y apprend par exemple dans un premier bunker que 20 hommes y surveillaient les abords dans un abri avec arrivée d'air, système de chauffage et même une sorte de tuyau pour communiquer avec la sentinelle au-dessus du bunker allemand. On y trouve des informations sur Douvres pendant l'occupation, la libération du site, les opérations de déminage, mais aussi une grande maquette de la station radar. On y sort et on peut répondre. À la fin de la visite, on répond à un questionnaire pour voir si on a bien tout compris, si on s'est réellement immergé dans cette période-là.
Et oui, ça fait aussi partie de l'expérience. On reste ensemble et on continue à parler de transmission et d'histoire aujourd'hui.
Il est 13h10.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Et s'il y a des lieux où l'on comprend plus encore l'horreur de la guerre, ce sont les cimetières. Alors pour que les soldats tombés pour la France ne soient plus des inconnus, le Souvenir français a décidé de raconter leur histoire. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. C'est une journée historique aujourd'hui. Oui. Nous sommes le 6 juin. Alors justement, comment transmettre l'histoire aux plus jeunes? Quels sont les outils qui existent? Eh bien, il y en a de nombreux outils. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
À chaque nouvelle commémoration, on prend, c'est vrai, conscience un peu plus de l'enfer qu'ont dû être les guerres qu'ont vécu nos ancêtres. Il y a les récits de ceux qui ont vécu 39-45, mais petit à petit, cette mémoire se perd avec leur disparition. C'était le cas aussi, évidemment, pour les poilus avant eux. Et puis, il y a tous ceux qui sont tombés à l'époque et dont personne ne raconte l'histoire. C'est à eux que le projet Mémoire d'Homme rend hommage. Bonjour Serge Barcellini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci
vraiment sur
vous.
Europe 1. Vous êtes le président général du Souvenir français. L'association existe depuis 1887, mais elle vit avec son temps. La preuve, vous avez décidé de créer une application, écoutez bien, qui recense les tombes des soldats tombés pour la France. Racontez-moi comment est née l'idée de ce projet.
Alors, d'abord, le Souvenir français est en effet une association importante, puisqu'en gros, on a 100 000 adhérents.
Oui.
Et cette association est excessivement bien implantée dans le tissu rural français. On est partout. Moins dans les villes d'ailleurs que dans les campagnes, mais nous sommes très implantés. Et dans ces campagnes, un des enjeux, c'est bien évidemment de maintenir la mémoire. Nous ne pouvons pas couper la mémoire des Français ou globalement de tous ceux qui habitent en France. Et nous nous sommes aperçus que les tombes des morts pour la France sont quelque chose d'essentiel dans ces campagnes. Il n'y a quasiment pas un cimetière en France qui n'a pas une tombe de mort pour la France. Ces tombes de mort pour la France, elles peuvent retrouver, excusez-moi d'employer ce terme, une utilité sociétale quelque part, une utilité pédagogique, pour apprendre aux enfants le destin de celui qui est dans la tombe. Car une tombe de mort pour la France dans un cimetière, c'est à la fois une mémoire familiale, mais c'est aussi une mémoire locale.
Et nationale.
Et nationale. Vous avez là le croisement de trois mémoires. Et c'est essentiel que demain, aujourd'hui ou demain, les jeunes en particulier, qui ne vont pas spontanément totalement dans les cimetières, puissent là s'en servir comme un apprentissage de l'histoire.
Donc vous proposez de redonner vie, de raconter l'histoire de ces noms qui sont gravés les uns en dessous des autres finalement. Comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher, aller fouiller cette histoire-là, retrouver les archives? Ça a dû être un travail totalement titanesque.
C'est un défi. Difficile à tenir. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple du Père Lachaise. Je vous ai dit qu'on est surtout dans le rural, on va prendre une ville. Il y a au Père Lachaise 800 tombes de 14-18.
Vous y étiez il n'y a pas longtemps avec une classe de CM2.
La semaine dernière où nous avons fait une grosse opération avec des scolaires pour démontrer comment, avec une tablette, avec un téléphone portable, vous pouvez découvrir le destin individuel de celui qui est dans la tombe.
Donc on tape un nom.
Alors, vous rentrez dans le cimetière, vous avez une application qui s'ouvre, qui vous guide immédiatement devant la tombe, les tombes que vous choisissez. Au Père Lachaise, nous en avons géolocalisé 200 à ce jour, qui vous guide sur l'une des 200 tombes. Et devant chaque tombe, vous avez l'histoire, 1 minute 30 d'un texte que vous lisez sur votre téléphone portable ou sous votre tablette. Et où vous avez l'histoire de celui qui est inhumé dans la tombe. C'est-à-dire qu'en définitive, on permet de faire rejaillir les destins individuels et on apprend l'histoire à travers ces destins d'une tombe quelquefois banale devant laquelle on est.
Comment est-ce que vous allez vous déployer pour réussir à tout cartographier? Parce que vous l'avez dit, même si vous êtes partout, il y en a beaucoup des tombes. On a parlé des poilus, c'est le travail qui est en cours. Il y aura ensuite les morts tombé pour la France en 39-45, c'est un travail qui va vous prendre des années.
Je veux vous dire, c'est un problème de fond, car c'est presque une course-poursuite. Pourquoi? Car ces tombes sont en train de disparaître dans les cimetières communaux. Ces tombes, souvent, sont en bout de concession et on voit les tombes disparaître, ce qui est une erreur grave. C'est une erreur grave. Et aujourd'hui, vous avez raison de me parler de chiffres. Il y a 45 000 cimetières en France.
Oui.
Et grosso modo, il y a 800 000 tombes de morts pour la France dans les cimetières communaux. Donc l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme car c'est à la fois un enjeu de recherche. Il faut trouver le texte, écrire le destin de chacun des combattants. Donc c'est ça l'enjeu. Et d'avoir une acceptation de la municipalité,
de la famille,
et de la famille. Donc, voilà les enjeux dans lesquels nous sommes. Cela marche, mais cela prend du temps.
Elisabeth, c'est facile d'avoir justement les autorisations de la famille ?
Alors, le plus dur, c'est l'autorisation de la commune.
Pourquoi ?
Ah ouais ?
Vous allez comprendre, on est dans le business. Lorsque la tombe est géolocalisée, c'est-à-dire lorsque la tombe va être découverte avec votre téléphone portable, vous ne pouvez plus la supprimer. Suivez-moi. C'est-à-dire que la concession, même quand elle arrive au bout, vous ne pouvez pas revendre la concession. Excusez-moi, vous avez bien compris ce que ça veut dire au Père Lachaise, revendre des concessions. Donc l'enjeu est d'abord un enjeu avec les municipalités, c'est convaincre les élus que ces tombes jouent un rôle sociétal. Ça, c'est la première chose qu'il faut convaincre. Deuxièmement, les familles, qu'en racontant l'histoire de leur ancien, de leur aïeul, c'est aussi partager une histoire commune.
Que dit le coach, Jean ?
Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'étape d'après, ça sera d'avoir des tombes connectées où on pourra avoir défilé des photos du défunt, des films, une sorte de biographie ? Ou est-ce que c'est trop compliqué d'un point de vue culturel et qu'on va rester avec du marbre gris, noir pendant encore des décennies ?
Je comprends parfaitement votre idée. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, notre idée à nous, c'est de faire de ces cimetières des voyages mémoriels pour les enfants. Aujourd'hui, trois quarts des élèves français ne vont pas sur un lieu de mémoire. Il y a bien sûr ceux qui vont à Verdun ou ceux qui vont en Normandie, on parle suffisamment de la Normandie. Trois quarts des élèves français ne vont pas sur des lieux de mémoire. Nous estimons aujourd'hui que ces cimetières peuvent être des visites mémorielles de proximité. Donc, c'est ce premier enjeu. Je vous suis après. Bien évidemment, il y a cette capacité à prendre les technologies nouvelles pour aller bien au-delà. On avancera, mais nous sommes dans un premier temps.
Elisabeth, vous avez une question ?
Oui, je voulais juste revenir. Vous parliez de l'aspect business. Vous disiez que c'est très difficile de convaincre les collectivités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, quand vous disiez, vous voyez ce que je veux dire sur une tombe du Père Lachaise, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est très cher, après on ne peut plus la revendre, c'est ça la concession ?
Une tombe du Père Lachaise, comme toutes les tombes familiales, excusez-moi de parler de tombe, mais aujourd'hui, si je veux, on peut en parler.
Bien sûr.
Une tombe, c'est une concession, c'est-à-dire que vous payez pour acheter une tombe et mettre votre famille dans la tombe. Et ces concessions ont une durée limitée. 40 ans, 50 ans.
Ça dépend.
La concession perpétuelle n'existe plus. Oui, j'apprends quelque chose à tous nos auditeurs.
Faire de la place, effectivement.
Il faut faire de la place dans nos cimetières. Or, nous pensons, nous, que c'est une erreur, car ces morts pour la France jouent un rôle important dans la sociabilité française d'aujourd'hui.
On reste ensemble et on continue à parler histoire, mémoire et transmission aujourd'hui.
Et il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous auriez peut-être voulu savoir ce qu'ont ressenti ceux qui ont participé au débarquement. C'est ce qu'a essayé de faire revivre le musée de Saint-Côme-du-Mont, baptisé d'idées expériences. On y va ensemble dans un instant. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et en cette journée historique, 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Nous parlons histoire et transmission avec de nombreux outils modernes. L'histoire se réinvente pour pouvoir la transmettre à vos enfants. Ce sont vos invités qui nous expliquent tout ça jusqu'à 14h, Raphaël Duchemin.
Il y a des batailles qui ont marqué l'histoire et en ce 6 juin, c'est celle de 40 ans entre les troupes aéroportées américaines et allemandes qu'on a décidé aujourd'hui de vous faire revivre. Bonjour Emmanuel Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez le musée de Saint-Côme-du-Mont qui s'appelle d'idées expériences depuis 2005. Le lieu d'abord a son importance parce que je crois que c'est un poste de commandement des para-américains et il a une histoire.
Alors effectivement, le musée se décompose en plusieurs bâtiments, dont une maison historique qui a servi de poste de commandement tout d'abord aux parachutistes allemands qui avaient pour ordre de défendre 40 ans coûte que coûte, puisque 40 ans était un objectif prioritaire pour les Alliés. Et ensuite, cette maison a été transformée en poste de commandement pour les parachutistes américains qui, eux, avaient pour ordre de prendre 40 ans absolument le plus rapidement possible.
Alors, vous avez racheté ce lieu et c'est une expérience aujourd'hui que vous proposez à vos visiteurs. On va partir avec vous. On entend le bruit là. On est où, Emmanuel Alain ?
Alors là, je pense que vous êtes à côté du C-47, donc qui est un véritable avion C-47, qui est un avion qui a largué les parachutistes américains dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et cet avion, nous l'avons transformé en véritable simulateur, c'est-à-dire que vous pouvez monter à bord de cet avion. Il est refait comme à l'époque. Alors, c'est pas des fauteuils comme dans des avions civils, hein. Vous êtes assis le long de la carlingue. Et dans chaque hublot, vous pouvez voir un film et ça vous fait revivre la traversée.
On le voit sur Europe1.fr en même temps qu'on vous écoute.
Voilà. On vous fait revivre la traversée de la Manche. Alors, ça dure beaucoup moins longtemps. Hein. Ça dure à peine 10 minutes. Et avec un système d'effets spéciaux et de bandes-son et de mouvements effectués par des vérins, vous pouvez revivre un peu cette traversée.
Ils sont harnachés, les visiteurs. Ils sont briefés avant de monter dans l'avion, comme s'ils étaient de véritables soldats. On les met en situation.
Alors effectivement, avant de monter à bord de cet avion, vous arrivez dans ce qu'on appelle une salle de briefing, comme à l'époque, et là vous avez un officier sous forme d'hologramme qui vous explique tout d'abord les équipements que vous portez sur vous, et ensuite la mission à laquelle vous allez être confronté avant de monter à bord de cet avion.
C'est une expérience 3D donc, hein ?
C'est du 3D, effectivement, tout comme le cinéma que nous avons ouvert cette année pour l'occasion, pour le 75e anniversaire.
Il y a un film, justement, puisque vous parlez de cinéma, un film qui a été réalisé par un Français, mais qui, bizarrement, n'était pas proposé ici en France. Il était proposé aux États-Unis, vous l'avez retrouvé.
Effectivement, alors c'est un film qui avait été fait pour le 70e anniversaire du débarquement, qui s'appelle D-Day Normandie 1944, réalisé par Pascal Wong. Et ce film qui est très très pédagogique, c'est un film vraiment très moderne, il n'y a pas d'image noir et blanc, c'est vraiment très très pédagogique. Ce film, on le trouvait quasiment pas en France ou de temps en temps à la Géode, et on trouvait que c'était assez aberrant, sachant que ce film passe tous les jours à l'Air and Space Museum de Washington, par exemple. Oui. Et donc j'ai contacté le réalisateur et nous avions décidé donc de faire une salle grand écran spéciale pour ce film-là qui passe en 3D et qui est très pédagogique et du coup maintenant passe en Normandie, ce qui est normal.
Je vois que le coach a pris des notes, il vous écoute avec attention Jean Moreau.
Bonjour Emmanuel, est-ce que vous battez un record de fréquentation ces jours-ci ou est-ce que finalement c'est étalé tout au long de l'année les visites dans votre musée ?
Alors, depuis 3 jours, on fait record sur record.
Ah, bravo.
Donc voilà, non, il y a une forte affluence. Alors malheureusement, encore aujourd'hui, il y a peut-être pas loin d'une heure et demie, 2 heures de queue devant le bâtiment.
Ah oui. Faut dire que oui, vous avez quand même la plus grande collection au monde sur les troupes aéroportées américaines, c'est pas rien.
Effectivement. Alors, il y a cette partie musée, il y a la partie du C-47, maintenant, il y a la partie du film. En plus, on a ouvert un nouvel espace muséographique de 500 mètres carrés supplémentaires également pour l'occasion, là, pour le 75e. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de choses à voir en plus et les gens sont au rendez-vous, les visiteurs sont au rendez-vous et a priori, très satisfaits d'après les dires à la sortie des différentes salles.
Elisabeth, il y a d'autres Français hein, qui ont aussi imaginé des solutions pour justement essayer de transmettre notre histoire. Comme
oui,
ça.
Notamment une au parc de réalité virtuelle thématisée de France, de KM, CHEM, qui a ouvert ses portes en 2018 aux portes de Caen. Vous avez là-bas des expériences pédagogiques, notamment une, Omaha VR, hein, reconstitution de la bataille d'Omaha Beach. Il y a une salle avec des casques de réalité virtuelle, une grande table type risque, et le visiteur met le casque au fur et à mesure des étapes. On voit des scènes, des unités se déplacer, on entend des explications, on peut s'approcher des véhicules, des bunkers. Par exemple, si on appuie sur le bunker, on se retrouve dans le bunker à 360 degrés. Là, pour l'instant, ils sont en attente de professionnels, justement, pour mettre en place cette expérience pédagogique.
Eh bien, l'appel est lancé aujourd'hui sur Europe 1. On reste ensemble, bien sûr.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Transmettre l'histoire, c'est aussi le rôle des professeurs. C'est ce que fait William Brou. Il est enseignant, mais aussi youtubeur. Grâce aux jeux vidéo. À tout de suite.
Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juin et c'est le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, grâce à vos invités, on parle transmission et histoire. Venez nous dire vous aussi comment vous transmettez l'histoire à vos enfants ou à vos petits-enfants sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard d'Europe 1.
Faire de la pédagogie, ce n'est pas seulement apprendre dans les livres, c'est aussi donner à voir. Ça passe par les photos, par les expériences 3D. Et aussi parfois par le jeu. Bonjour William Brou.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie depuis 2013 et vous êtes aussi, on va l'entendre, youtubeur.
Bonjour les enfants. Je suis venu vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, la guerre que les gentils Américains ont gagnée contre les méchants nazis.
La dernière fois que Call of Duty s'est intéressé à la Seconde Guerre mondiale, c'était dans World at War et c'était il y a 10 ans. Alors on incarne le soldat Daniel, et il nous raconte son expérience de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le récit proposé dans le jeu nous permet d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, on va le découvrir tout de suite.
Alors, bonne question, William Brou. Est-ce que le jeu est vraiment le reflet de la réalité? Ça, vos élèves doivent vous la poser comme question.
Exactement, c'est la question que je cherche à leur faire naître dans leur tête, en fait, quand je travaille avec le jeu vidéo. L'idée, c'est vraiment de regarder si le jeu nous raconte l'histoire ou quelle histoire il nous raconte, de regarder ce qui est vrai, ce qui est faux, et de décrypter parfois les messages idéologiques qu'il peut y avoir derrière ou les choix scénaristiques qui ont été faits.
Vous êtes vous-même un ancien joueur et vous vous êtes aperçu que vous pouviez utiliser ce jeu vidéo justement pour les amener à s'intéresser à l'histoire ?
Alors ce jeu vidéo en particulier, je ne l'ai pas testé, mais d'autres jeux, oui, je pense que ça peut faire naître, donner des images à voir et ça peut permettre de faire naître une curiosité chez les élèves en fait. Et plus encore en fait, ça leur permet d'utiliser les connaissances qu'ils peuvent acquérir grâce à nous ou à l'extérieur, grâce à leurs parents ou à des visites dans des musées, pour critiquer le jeu vidéo, pour critiquer un média en fait qui parle d'histoire.
Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent le jeu, la bande-annonce notamment, comme 42 Battlefield, Bataille dans le Pacifique, c'est un des exemples?
Bah en fait, tout dépend la notion que je veux leur faire aborder, tout dépend l'objectif pédagogique en fait. Et ensuite, je vais pouvoir soit utiliser la bande-annonce du jeu comme Assassin's Creed Unity par exemple, avec le récit de la Bastille, ou vraiment leur faire manipuler le jeu comme Kaiser 3 pour aborder la romanisation, ou simplement découvrir l'Égypte antique avec Assassin's Creed Origins par exemple.
Et ensuite, vous distribuez des documents pour étudier et faire des prolongements, c'est ça?
Oui, c'est essentiel pour moi de revenir aux documents sources hein, pour vraiment qu'ils puissent connaître l'histoire, voir comment l'histoire se fabrique en fait, et ensuite comment l'histoire peut être réinterprétée, parce que ça arrive dans les jeux vidéo que l'histoire soit réinterprétée. Voilà, les développeurs s'inspirent, les scénaristes s'inspirent de l'histoire pour écrire d'autres histoires, d'autres récits peut-être un peu plus fantaisie.
Le coach Jean Moreau.
C'est une tendance qu'on voit dans toutes les startups, hein, qu'on appelle la gamification. Est-ce que vous, ça inspire vos collègues? Il y a d'autres professeurs qui pensent à faire ça, ou on vous regarde comme un hurluberlu et un peu illuminé?
Non, bah faut dire déjà au niveau national, il y a un portail hein, créé par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Apprendre par le jeu numérique. Il y a beaucoup de collègues individuellement qui vont vers cette tendance-là. Mais je nuancerai quand même parce que ma pratique et ma démarche n'est pas forcément, c'est pas de la gamification. C'est, j'utilise le jeu, mais pour qu'ils le critiquent en fait. Et donc ils ont une analyse dessus qui ressemble à l'analyse qu'on peut faire sur d'autres documents comme des pièces de théâtre ou des œuvres picturales comme je sais pas La Liberté guidant le peuple de Delacroix par exemple.
Ouais, et l'académie de Clermont vous a d'ailleurs contacté, je crois.
Oui, l'Académie Clermont est en train de monter un projet autour de l'utilisation des jeux, soit de manière vraiment ludique, c'est-à-dire faire de la gamification, soit dans mon approche vraiment critique et prendre du recul face à cet objet culturel.
Merci beaucoup, William Brou. Bonne sortie scolaire, hein, parce que vous nous avez accordé un petit peu de temps. Vous êtes évidemment sorti en ce moment avec vos élèves. Bonne journée à vous et à eux, évidemment. Transmettez-leur nos amitiés. Il est 13h36. On va refermer cette page d'histoire ensemble. Merci à tous d'avoir participé avec nous à faire revivre ce débarquement.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble dans un instant. Son histoire à elle est liée à celle du Mont-Saint-Michel, la mère Poulard et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, vous nous proposez comme chaque jour de découvrir l'entreprise française qui va bien. Aujourd'hui, elle nous régale du côté du Mont-Saint-Michel.
Oui, elle a un goût, c'est vrai, de Madeleine de Proust hein, pour beaucoup d'entre nous. C'est la mère Poulard. Bonjour Eric Vanier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette biscuiterie désormais, on peut le dire, mondialement connue. Mais au départ, 1888, c'est une auberge et c'est Annette, qui est fille de chambre, qui va arriver au Mont-Saint-Michel et qui va rencontrer un certain Victor Poulard. Elle l'épouse, c'est le fils du boulanger. Hein. On n'est pas dans Pagnol, mais ça y ressemble.
Mais presque, oui, effectivement. Annette Poulard, qui est originaire de Bourgogne, de Nevers, vient dans les bagages d'un très grand architecte qui va rénover à cette époque le Mont-Saint-Michel, Édouard Corroyer. Et elle fait la rencontre à 18 ans, effectivement, de Victor Poulard, qui, paraît-il, avait de très beaux yeux bleus, dont elle est tombée amoureuse. Et elle s'est installée donc définitivement avec lui. Et quelques années plus tard, ils ont ouvert leur auberge. Ils ont créé leur auberge en 1888, effectivement. Une auberge qui continue d'exister encore aujourd'hui.
Et alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mère Poulard ? C'est un titre honorifique, c'est parce qu'elle cuisinait bien.
Voilà, c'était à l'époque, il y a eu quelques mères, on les connaît beaucoup dans la région de Lyon, mère Brasier et d'autres, et la mère Poulard, c'est un titre effectivement que l'on donnait à un grand chef, c'était l'équivalent de grand chef de cuisine au féminin.
Et alors elle avait pris une habitude, Annette, c'était de fabriquer des petits biscuits qu'elle appelait les porte-bonheur, je crois, et qu'elle distribuait, voilà. C'est ça, aux visiteurs.
Voilà, c'était ces petits porte-bonheur, donc porte-bonheur parce qu'elle croyait beaucoup au chiffre 8, et comme elle a ouvert son auberge en 1888, pour
forcément,
elle, c'était déjà un signe du destin. Et donc, elle a fabriqué ces petits biscuits qu'elle fabriquait la nuit, pendant que Victor animait les veillées. Elle restait dans son auberge à préparer donc ces petits biscuits qu'elle donnait ensuite, alors, qu'elle distribuait effectivement, alors à la fois bien sûr à ses clients, aux clients de l'auberge, mais beaucoup aux pèlerins et aux enfants. Elle adorait les enfants, donc tous les enfants qui passaient dans la rue devant son auberge, elle leur donnait en leur souhaitant plein de bonheur et une heureuse vie.
Alors elle décède en 1931, l'auberge reste en place. Comment démarre la biscuiterie ? C'est vous qui avez l'idée en 1986, je crois, de créer une biscuiterie à part entière ?
Oui, non. En 1986, j'ai repris effectivement l'auberge de la mère Poulard, puisque je suis originaire de ce beau pays de Normandie, enfin entre Normandie et Bretagne en ce qui me concerne.
Ça c'est un autre débat.
Non, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille, moitié normand, moitié breton, mais le Mont-Saint-Michel, je vous le confirme, est bien normand.
Bon.
Donc j'ai repris cette auberge. Effectivement, j'ai été beaucoup, d'abord je la connaissais quand j'étais petit et quand j'y passais quelques fois et j'adorais ses biscuits. Et donc j'ai voulu reprendre cette tradition.
Vous vous êtes dit, il faut en faire quelque chose.
Voilà, j'ai voulu d'abord réinventer cette tradition de distribuer aux pèlerins et aux enfants qui passaient devant l'auberge. Et comme, bon, aujourd'hui, les pèlerins sont des touristes qui me disaient à chaque fois, bon, on aimerait bien en emporter avec nous. J'ai commencé à en fabriquer pour eux. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à en fabriquer pour la région. Puis ensuite, c'est passé à la France et après à l'international. Voilà.
Que dit le coach Jean Moreau ?
J'imagine que vous êtes l'un des premiers employeurs du bassin après le secteur touristique. Combien vous avez d'emplois en local ?
En hôtellerie, environ 450 et sur la biscuiterie, une centaine. Voilà.
Avec toujours les mêmes recettes, ça n'a pas changé. Vous avez inventé, vous avez une quinzaine, je crois, de biscuits aujourd'hui. Hein.
Voilà, une quinzaine de recettes. Ce sont toujours des recettes d'Annette Poulard. Donc, effectivement, bon, elle était très prolifique, donc il y en a encore beaucoup à faire.
Il y a un ingrédient commun, c'est le beurre.
Ah oui, il faut quand même... Bon, là...
Obligatoire. On me demande beurre salé ou beurre doux. Voilà un autre débat.
En Normandie, alors on le fait avec les deux. Hein, ça dépend des types de biscuits. Mais enfin bon, plutôt du beurre doux en général. C'est plutôt l'omelette qu'on fait au beurre salé. Hein. Mais les biscuits, c'est plutôt le beurre doux. Et effectivement, sur des recettes qu'elle a... Elle a été très inventive. Elle a créé beaucoup de recettes, beaucoup dans le sucré d'ailleurs. Et donc, on reprend donc ces biscuits jusqu'à aujourd'hui. C'est notre seule problématique, c'est de garder justement cette façon traditionnelle de les fabriquer. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ce sont c'est un atelier de fabrication qui n'est plus qui est des plus artisanal, mais nous gardons la même qualité.
Elisabeth ?
Alors, vous utilisez des produits de bonne qualité, hein, des produits frais, hein, c'est ce que l'on peut voir sur votre site internet. Quelle est la part de bio désormais dans la fabrication de vos biscuits ? Parce que je crois que vous avez une gamme. Quelle est sa part ?
Elle commence là. Elle commence parce
que... Vous
venez
de les lancer ?
On la lance cette année, donc, parce que jusqu'à présent, on fabriquait effectivement avec de très bons ingrédients.
Mais ce n'était pas suffisant ?
C'est pas suffisant. Effectivement, la mère Poulard, traditionnellement, les fabriquait avec du bio, puisque à son époque, je veux dire, elle se fournissait dans les fermes alentours et donc, sans le savoir, elle fabriquait déjà du bio. Donc, aujourd'hui, avec l'évolution du marché, je pense que nous avions toute notre place sur ce marché. Nous avions des recettes un petit peu différentes des autres, donc on a souhaité les faire maintenant en bio.
Et c'est votre fils aujourd'hui qui est avec vous dans l'aventure et c'est lui qui va prendre la suite de la mère Poulard. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Ils veulent débarrasser la mer du plastique. I Clean My Sea est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin, et avec vos invités. Chaque jour, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, tous ensemble, on va nettoyer nos océans.
Et oui, optimiser les dispositifs de collecte des déchets en mer, c'est ce que met en place iClean My Sea. Elisabeth, c'est la solution à l'occasion, et oui, de la Journée mondiale des océans qui aura lieu ce samedi.
Oui, iClean My Sea, c'est une toute jeune start-up située à Bidart. Elle est incubée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et elle propose de collecter les déchets en mer. Le fondateur qui est avec nous en studio est parti du constat suivant. 80% des plastiques arrivent par les rivières et les personnes qui vont récupérer les déchets près des rivières sont assez rares. iClean My Sea met en place des bateaux de ramassage des déchets à l'embouchure des fleuves. Ce sont des catamarans de 7 mètres de long capables, avec un tapis roulant, de collecter les déchets. Il y a une appli participative puisque tous les usagers de la mer pourront participer collectivement à l'effort de détection des déchets plastiques en aidant les bateaux qui collectent. Bonjour Aymeric Jouan.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur de iClean My Sea. Donc vous vendez en quelque sorte une solution globale pour lutter contre les déchets plastiques en mer.
C'est exact. Notre objectif, c'est vraiment de viser l'efficacité. Et pour atteindre cette efficacité, ce qu'on met en place avec la détection, la collecte et la valorisation, c'est un dispositif complet qui va tacler la problématique des déchets en mer de manière la plus efficace possible.
Donc vous parlez de détection. Donc ça commence d'abord par comment on détecte ?
Alors déjà, il faut savoir que personne ne sait vraiment où vont les déchets, d'où ils viennent. Et donc, il y a une nécessité d'abord de les repérer pour pouvoir les collecter efficacement. iClean My Sea met d'abord en place des outils de l'océanographie opérationnelle classique. Moi, je suis océanographe de formation et donc je mets à contribution ces compétences pour donner de l'efficacité au dispositif. Donc on va utiliser à terme des images satellites, des caméras vidéo qui vont regarder...
Pour repérer les déchets.
Absolument. Et une dernière appli, enfin un dernier volet participatif qui consiste à simplement prendre une photo des déchets en mer, alors en rivière, et à travers l'appli, on récupère des informations de géolocalisation qui vont permettre ensuite aux marins d'être au bon endroit et au bon moment pour effectuer leur travail de manière le plus efficace possible.
Comment s'effectue la collecte ?
Alors la collecte s'effectue donc avec des petits bateaux. Enfin, petits, ils font quand même 7,30 m. Et pourquoi cette stratégie ? C'est d'abord parce que notre immense expérience de dépollution en France avec les marées noires nous apprend que il vaut mieux plusieurs petites unités qu'un gros navire pour effectuer un travail efficace. Donc on vise de mettre en place...
Plusieurs petits bateaux plutôt que quelque chose d'énorme.
Exactement, exactement.
C'est plus efficace.
C'est plus efficace et puis en plus de ça, c'est réplicable beaucoup plus rapidement que de mettre en place un énorme bateau qui pourrait coûter des millions. Voilà, donc ça, techniquement, on met des marins professionnels à bord et on leur donne de l'information pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain.
Jean ?
Moi, ce que j'adore, c'est que c'est dans la même veine que les applications type Yuka, C'est qui le patron ou notre application Phoenix. Ça donne le pouvoir au consommateur pour s'engager, faire un geste pour la planète. Et donc, comment les auditeurs peuvent s'impliquer, vous aider au quotidien ? Quel est l'appel que vous voulez faire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas encore créé cette application, mais elle est en cours de développement.
C'est pour quand ?
Alors, c'est pour dès qu'on aura trouvé les fonds.
Vous lancez un appel de fonds, c'est ça ?
Et aussi, effectivement. Mais je pense que pour impliquer vos auditeurs, ça commence, le participatif commence déjà dès maintenant. Et vous pouvez nous soutenir sur nos réseaux sociaux.
Comment ?
Alors, Facebook, Instagram, allez liker nos pages. Tenez-vous au courant de l'info, de l'actualité d'iClean My Sea. Parce que dans un court laps de temps, on mettra en place une phase de crowdfunding et donc chacun pourra participer financièrement au développement des outils qui permettront à tout le monde demain de dire iClean My Sea collectivement.
Vous avez besoin de combien concrètement pour pouvoir, lancer l'application, là, demain ?
Demain, l'application, on a chiffré à 65 000 euros la création de l'application mobile brute de décoffrage, voilà.
Vous n'avez pas encore accroché votre premier client. On espère qu'il nous entend là en direct sur Europe 1. Qu'est-ce qui fait qu'il va vous choisir ? C'est quoi votre particularité par rapport à d'autres ? Parce que repérer les déchets dans les océans, il y a des acteurs.
Alors nous déjà, on vise l'efficacité. On ne va pas en mer au large pour travailler un petit au petit bonheur la chance. Et puis surtout, on est une proposition de l'économie sociale et solidaire. Donc on garantit que les bénéfices qu'on va réaliser seront réinjectés dans l'activité. On est vraiment dans la veine de la transition écologique à œuvrer efficacement pour le bien commun. Et en plus de ça, collectivement, donc le fait d'allier les collectivités littorales, les entreprises, les professionnels de la mer et les particuliers et les usagers de la mer, c'est former un front commun pour aller tous ensemble travailler à lutter contre l'invasion des plastiques en mer.
C'est un cercle vertueux, mais il y a aussi un autre cercle vertueux puisque vous allez chercher, enfin repérer, collecter et recycler finalement ces déchets, les valoriser ensuite.
Exactement. L'idée là, avec la valorisation, c'est de se donner un second souffle au niveau ressources financières. Et l'idée, c'est avec les plastiques qui seront valorisables, tous ne le seront pas, mais ceux qui seront valorisables, on veut créer des objets à usage pérenne, en plastique bien évidemment, mais qui porteront les valeurs d'iClean My Sea et qui du coup pourront être vendus plus cher que le plastique lambda.
C'est iClean My Sea, c'est la solution aujourd'hui, soutenez-les, hein, vous avez entendu, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos océans. Merci à Jean Moreau qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth, à demain. Suspense, tiens, pour demain.
Ouais, ça sent quand même le football, hein, tout ça.
Vous avez deviné.